Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien, au CAPI Service, qui s'intéresse aujourd'hui au niveau de la mise en œuvre du droit international humanitaire en RDC. En RDC, le droit international humanitaire souffre parfois d'applications lors, par exemple, des déplacements massifs de la population liés notamment à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé. La population sinistrée passe souvent la nuit à la belle étoile, à la merci des intempéries de toute nature. Dans ce contexte, la souffrance humaine devient plus aiguë et ses conséquences plus difficiles à surmonter. Quel est le niveau de la mise en œuvre du droit international humanitaire en RDC? Nous en parlons avec Madame Claudine Mouchebeukois. Je rappelle qu'elle est conseillère juridique et régionale au CICR. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les droits internationaux humanitaires?
Le droit international humanitaire est un ensemble de règles internationales qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège également les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, ainsi que certains biens affectés ou susceptibles d'être affectés par un conflit armé. Il limite également le choix des moyens et méthodes de faire la guerre afin d'en atténuer les effets.
Cet ensemble de règles remonte à quand exactement, madame?
Cet ensemble de règles remonte à très loin, déjà avec Henri Dunant, je pense que vous connaissez l'histoire d'Henri Dunant, qui, avec son souvenir de Solferino, c'est un livre qu'il a écrit après un voyage, il a traversé un champ de bataille, et donc il a vu des personnes blessées, sans secours, sans soins, et à ce moment-là, qu'avec ses compagnons, il a eu l'idée justement de mettre en place des sociétés de secours. Hein. Ça, je vous dis brièvement. Et donc, avec son souvenir de Solferino, où il lance l'idée, c'est un livre, à ce moment-là, il y a eu la première conférence diplomatique pour discuter justement de la première convention de Genève en 1864. Et depuis ce moment-là, il y a eu des évolutions, évidemment, et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un corpus qui comprend les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et des trois protocoles additionnels, dont deux protocoles additionnels de 1977 et un protocole additionnel de 2005.
Nous pouvons avoir une idée sur les grandes lignes de ce que dit toutes ces conventions-là?
La première convention de Genève, sur les quatre, hein, traite justement de la protection des blessés, malades et militaires en campagne, c'est-à-dire des forces terrestres. La deuxième, des blessés, malades dans les forces armées sur mer, la bataille sur mer. Et la troisième parle du traitement des prisonniers de guerre. La quatrième parle de la protection de la population civile. Alors, pour ce qui concerne les protocoles additionnels, les deux premiers du 8 juin 1977, le premier parle justement des conflits armés internationaux et le deuxième parle des conflits armés non internationaux. Et le troisième protocole additionnel, il est de 2005. Quand les sociétés de secours ont été créées, il y a eu un signe que nous on appelle emblème, un signe héraldique qui a été adopté. À l'époque, c'était la Croix-Rouge. Pourquoi la Croix-Rouge, Croix-Rouge sur fond blanc? Tout simplement parce que Henri Dunant est citoyen suisse et pour l'honorer, on avait adopté justement l'inversion du drapeau suisse qui, comme vous le savez, c'est une croix blanche sur fond rouge. Et donc, on a adopté la Croix-Rouge sur fond blanc. Et puis, après, avec l'Empire ottoman qui a, à l'époque, connu son apogée et occupé presque tout l'Occident, il a été à tort attribué un sens religieux à la Croix-Rouge, j'ai dit bien à tort, et donc à ce moment-là, il y a eu l'adoption du croissant rouge. Et puis après, il y a eu évidemment d'autres signes qui ont suivi, les lions solaires rouges, et puis d'autres signes, jusqu'en 1981. D'ailleurs, vous verrez que dans les conventions de Genève, on parle de trois emblèmes, croix rouge, croissant rouge et lion solaire rouge. Et donc, en 2005, les États ont décidé de mettre fin à la prolifération des emblèmes en adoptant un autre emblème, le cristal rouge, qui serait choisi évidemment par ceux qui ne choisissent ni la croix ni le croissant, mais qui pourraient prendre le cristal rouge. Et donc aujourd'hui, à ce jour, nous avons trois emblèmes qui coexistent, la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge.
Madame, à vous comprendre, donc le CICR est appelé à assurer la promotion de ses droits internationaux partout où il est implanté.
Oui, évidemment, le CICR a reçu ce mandat des États parce que, comme vous le savez, les conventions sont adoptées par les États. Ce sont les États qui font des conventions, ce n'est pas le CICR. Et le CICR a reçu mandat des États pour promouvoir et développer le droit international humanitaire. Et c'est à ce titre, justement, que nous apportons notre soutien aux États dans la mise en œuvre du droit international humanitaire.
Et quel est le niveau de la mise en œuvre de ces droits internationaux humanitaires ici, chez nous, en RDC?
Pour évaluer, nous ne pouvons pas évaluer comme ça le droit international humanitaire
dans sa globalité.
Nous pouvons dire quand même que les niveaux de ratification des conventions relatives au droit international humanitaire est bon, notamment les conventions de Genève sont toutes ratifiées, les deux protocoles additionnels de 1977 sont ratifiés également, il reste la ratification du protocole additionnel 3, le ministre des Affaires étrangères, lors du colloque sur les 40 ans des protocoles additionnels de 1977, a promis que la RDC allait incessamment ratifier le protocole additionnel 3 de 2005, portant création du cristal rouge, d'un nouvel emblème, le cristal rouge. Alors, une autre grande convention qui a été ratifiée par la RDC, c'est la convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes, qu'on appelle convention de Kampala, parce que vous savez que nous avons la problématique des déplacés ici. Et puis, il y a évidemment la convention de l'AE de 1954, qui porte sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui est aussi une grande convention. Et puis, il y a toutes ces conventions qui portent sur les armes, parce que vous savez que les droits internationaux humanitaires, je vous l'ai dit, parlent aussi des moyens de faire la guerre. On fait la guerre avec des armes. Et donc, les armes aussi sont réglementées. Il y a la convention évidemment sur les armes classiques avec ses protocoles, il y a la convention sur les armes chimiques, il y a les traités sur le commerce des armes qui est un grand traité et qui attend encore la ratification de la RDC. La convention sur les armes à sous-munitions n'est pas encore ratifiée. La convention de l'Afrique centrale sur les armes légères et de petits calibre qu'on appelle convention de Kinshasa n'est pas encore ratifiée et donc toutes ces conventions attendent quand même aussi la ratification pour en assurer à la fin la mise en œuvre.
Madame Claudine, je rappelle que vous êtes conseillère juridique régionale du CICR ici en RDC. Ça c'est au niveau de l'administration, au niveau du point de vue officiel sur terrain. Sur terrain, quelle est la réalité qui se dégage exactement dans des camps des réfugiés en cas de déplacement massif de la population?
Bon, le CICR apporte son assistance, évidemment, parce que nous avons quatre volets au CICR. Nous avons le volet prévention, c'est ce volet qui regroupe justement la communication, mais aussi la mise en œuvre et tout le travail que nous faisons avec les forces armées. Nous avons le volet protection qui s'occupe principalement des garanties judiciaires, mais aussi, parfois vous nous voyez dans les prisons et tout. Nous allons faire des visites CICR,
c'est reconnu. Sur les conditions carcérales.
Oui, les conditions carcérales. Voilà, nous avons aussi dans la protection le rétablissement des liens familiaux. Quand vous voyez l'avion du CICR transporter des enfants, les regrouper avec leur famille, des enfants qui ont été retirés, soit des groupes armés, soit alors ils se sont perdus suite à un conflit armé. Voilà, vous avez aussi dans ce rétablissement des liens familiaux, vous avez évidemment tous ces travaux que nous faisons pour réunir les familles avec des messages Croix-Rouge. Voilà. Et puis, on a le volet coopération. Ce volet nous amène justement à travailler avec la société nationale, ici en RDC et ailleurs avec les sociétés nationales. La société nationale, c'est la Croix-Rouge de la RDC. Parce que, comme vous le savez, nous sommes tous membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et dans ce mouvement, nous avons la fédération des sociétés de la Croix-Rouge, nous avons les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et nous avons le CICR. Et donc la coopération, justement, regarde tout ce que nous faisons dans les cadres du mouvement. Et puis nous avons le volet assistance. Assistance, c'est là où nous avons, justement, ce pool ECOSEC, WATAB, ou ECOSEC, ça fait un peu sorcier, mais c'est
l'acronyme de
sécurité économique. Et WATAB, c'est eau et habitat. Mmh. Voilà. Et donc, avec ces programmes, nous apportons de l'aide aux personnes, aux déplacés, mais aussi pour ce qui concerne la santé aussi, en détention, mais aussi à l'extérieur. Là, par exemple, à Beni, nous apportons un soutien pour la lutte contre le virus Ebola. Et donc, comme vous me demandiez ce que nous faisons avec les déplacés internes, pour eux, nous avons justement la sécurité économique qui intervient, mais nous avons aussi la protection qui intervient, mais aussi la prévention, parce que nous sensibilisons les autorités sur, par exemple, le fait de maintenir le caractère civil des camps des déplacés. Par exemple, sur évidemment le fait que les déplacés sont d'abord sous la responsabilité des États parce qu'ils n'ont pas traversé les frontières nationales et donc ils restent sous la responsabilité de l'État et l'État devrait y penser.
Madame Ouchebekwa, dans cette émission, les auditeurs appellent pour prendre part au débat. Donc nous allons donner la parole au premier intervenant qui nous appelle de Kisangani. Quel est le niveau de la mise en œuvre du droit international humanitaire en RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394 et au numéro 081-890-6394.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Alexandre, vous êtes le premier auditeur et vous nous appelez depuis la ville de Kisangani. Bonjour.
Bonjour Tassi Mapoukou, bonjour madame l'invitée qui est au plateau avec
vous. Nous faisons le point sur le niveau de la mise en œuvre des droits internationaux en RDC. Quelle est votre question à ce niveau du débat?
Oui, c'est vrai que les droits internationaux humanitaires posent problème toujours en RDC sur l'applicabilité du fait que les soi-disant pays qui se disent souvent souverains ne peuvent que produire ça. Étant donné que celle-ci dont la RDC ne respecte aucune loi, eh bien, c'est la population qui en est la victime. Même si on monte au créneau, aucune solution ne sera trouvée. Et c'est vraiment la honte pour nous, les pauvres de Yavé, qui souffrent de plus en plus. À mon humble avis, il faut que l'État congolais se reconnaisse d'abord l'État comme une nation qui a des pays amis et que celle-ci respecte ses engagements au niveau régional et international sur les droits humains. Et sur ce, j'ai des petites questions à poser à madame l'invitée. À l'horizon de ces élections qui se pointent le 23 décembre, quelles sont les mesures préventives à promouvoir que l'État congolais doit prendre pour que ces droits s'appliquent? Et comment et pourquoi les droits internationaux humanitaires n'est pas respecté au Congo? Merci beaucoup.
Merci monsieur Alexandre. Je rappelle que vous nous avez appelé depuis la ville de Kisangani, également John Louisa, qui nous a écrit depuis la ville de Demba. Il a réagi dans le même sens. Il dit ceci: en réalité, les États puissants ont peu de risques d'être la cible d'une action d'ingérence. Il est donc logique qu'une remise en cause aussi dissymétrique de la souveraineté des États se heurte à des réticences très fortes, notamment de la part des pays du tiers-monde qui y voient une résurgence des pratiques coloniales. C'est ainsi que les droits de l'homme en RDC, à l'occurrence, sont considérés comme ayant valeur universelle et sont donc censés devoir être appliqués en tout lieu, et c'est indépendamment de la volonté de nos dirigeants locaux. C'est pourquoi, quand on essaie de voir loin en RDC, l'une des conséquences ultimes de la philosophie des droits de l'homme, c'est illégitime de notre gouvernement qui ne respecte pas non plus, et à contrario, la légitimité des interventions extérieures tendant à le faire respecter. Votre commentaire, madame, sur les réactions de nos auditeurs.
Merci,
le
monsieur.
Premier Alexandre qui est intervenu de Kisangani.
Merci pour vos questions, monsieur Alexandre et l'autre intervenant. J'aimerais que vous puissiez retenir que le droit international humanitaire ne s'applique qu'aux situations de conflits armés et pas aux situations de violences sporadiques comme les émeutes
ou les non-respect des droits de l'homme.
Voilà. Le droit international humanitaire est différent des droits de l'homme. Le droit international humanitaire, c'est un corpus qui ne s'applique qu'en cas de conflits armés. Et en l'absence de conflits armés, il ne s'applique pas. Ici, en RDC, évidemment, vous verrez que le CICR est installé là où il y a des poches, justement, des situations de conflits armés, et que c'est là que nous intervenons. Nous n'intervenons pas sur le point de savoir si le droit international, le droit de l'homme est appliqué. Ça, il y a d'autres corps, justement, d'autres corpus de droit
qui s'occupent de ces aspects
de droit international humanitaire. Mais j'aimerais juste dire ceci. Le droit international humanitaire peut avoir aussi un corps qui veille à sa mise en œuvre dans le pays, à sa mise en œuvre nationale. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Affaires étrangères de la RDC sur la mise en place d'une commission nationale de droit international humanitaire, une CONADI. Et si cette commission voit le jour, vous voyez que les questions de mise en œuvre seront centralisées dans un seul service. Donc tous les ministères qui sont impliqués dans la mise en œuvre du droit international humanitaire seront partie prenante à cet organe qui va prendre la forme que le gouvernement congolais voudra bien lui donner et assurer justement le suivi de la mise en œuvre.
Madame Moussoukouka, nous allons vous rappeler, excusez-moi, nous allons vous donner la parole, hein, oui. Parce qu'il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne, ils risquent de s'impatienter, donc oui. Nous allons leur donner la parole. Katiaï, oui. Vous nous appelez depuis la ville de Kananga, bonjour.
Bonjour Radio Kati et bonjour à l'invité.
Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Oui, merci beaucoup Radio Kati. Je voulais tout simplement demander des précisions à l'invité par rapport à cette théorie qu'il a développée sur les droits internationaux humanitaires. Quel est le degré d'intervention du CICR par rapport aux personnes qui ne participent pas? Là, je fais allusion à la population civile. C'est une catégorie des personnes qui ne participent pas aux hostilités, contrairement à la catégorie des personnes qui ne participent plus aux hostilités, qui sont des militaires. Quel est le degré d'intervention du CICR à ces personnes-là? Parce que ici, à Kananga, par exemple, quand il y a eu un conflit, les phénomènes liés au conflit Kamouina-Sapou, il y a eu des guerres, il y a eu des déplacements massifs des populations. C'était seulement des organisations humanitaires qui intervenaient pour sécuriser la population et ils ne s'occupaient pas beaucoup plus aux militaires et aux miliciens. Alors, cela est dû à quoi? Deuxièmement, les Yus in Bello, une fille quoi? Et qu'est-ce qui différencie les signes du Comité international de la Croix-Rouge? Parce que il y a les croissants rouges et les croix et les croissants rouges et la Croix-Rouge. Alors, je voulais demander qu'est-ce qui différencie ces signes-là. Pourquoi chez les musulmans, on parle du croissant rouge et dans le monde, dans le milieu chrétien, on parle de la Croix-Rouge. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos questions. Je rappelle que vous nous avez appelé depuis la ville de Kananga. Donnons cette fois-ci la parole à M. Jean-Paul. Lui, il est à Kalemi. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question à ce niveau de débat, à ce niveau du débat?
Moi, j'aurais juste deux questions à poser à madame l'invité. Qu'est-ce que l'HTF nous rassure aujourd'hui que lorsqu'il est dans les cas de réfugiés, exactement que les réfugiés qui sont en déplacement bénéficient exactement de tout ce qui est comme aide humanitaire? Ça, c'est la première question. Parce que nous constatons, même ici à Calais, nous avons beaucoup de camps, de réfugiés, mais lorsqu'il y a des aides humanitaires, ce sont des gens qui sont dans les villes, les femmes de certaines personnes que nous ne pouvons pas citer, mais qui sont bénéficiaires en ville, place, et là, qui sont exactement ou effectivement du passé des guerres. Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir comment est-ce que l'HTR est en train de se prendre pour ramener ces réfugiés dans leur milieu habituel, parce que nous sommes en train de constater qu'il y a presque un temps, vraiment long, qu'on a constaté que le camp de réfugiés qui est constitué en Talanika, à Bukavu, partout. Il y a même une campagne qui est menée par la mère de madame la ministre de Justice, de Justice et quoi. Bon, il y a fait social, je pense, et la campagne contre l'existence des camps de réfugiés à Bukavu. Je ne sais pas si la campagne a déjà mené des actions positives ou pas. Les camps de réfugiés sont réfugiés. Lorsqu'on leur aborde une aide humanitaire, les réfugiés, réellement réfugiés, ne peuvent bénéficier rien de ces droits là-bas. Ce sont des originaires de certaines villes qui sont en train de bénéficier de choses comme ça. Alors, nous constatons un grand désordre dans ces droits internationaux humanitaires, même si l'intervenu même qui est censé, elle est censée ces mêmes réfugiés leur donner les droits. Et il est en train de les cautionner. Après, ce sont les deux questions à laquelle nous reviennent les madames et les députés de la réponse. Merci beaucoup, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Paul. Donc, vous décriez la complaisance qu'il y a dans la distribution des vivres dans les camps des réfugiés au niveau de Kalemi. Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Bon, la première question, Tati Mapoukou, c'est de savoir le niveau de l'implication du comité au niveau interne ici, et surtout, nous voyons des atrocités à l'Est, mais on ne sait pas voir cette institution intervenir. Je voulais aussi savoir si il se limite à intervenir que lorsqu'il y a un mort pendant la pluie, on fait voir ces agents-là porter les trucs-là pour transporter ces morts-là à les enterrer, ou soit s'il y a des minimes événements, et pourtant, ils en devraient sentir quoi? Ils ont peur de la mort ou quoi? C'est la première question. On ne sait pas vraiment voir là où il y a des atrocités, on ne sait pas le voir. Est-ce qu'ils ont, ils sont conscients que les militaires congolais ne sont pas éduqués, ils ne respectent pas ces droits-là, c'est pour cela?
Monsieur Gaston, s'il vous plaît, vous ne trouvez pas dans les informations les interventions du CICR dans des camps des réfugiés, dans les frontières de la RDC?
Non, bon, je ne sais pas si vous me l'avez dit, mais moi, tout ce que je sais, lorsque j'entends, par exemple, qu'à Beni, il y a affrontement entre militaires et rebelles, c'est là où on devrait voir, après atrocité, voir ces comités-là aller ramasser les morts, les blessés, des trucs comme ça, mais on ne les voit pas.
Madame Larrivée, elle a dit qu'au Nord Kivu à Beni, par exemple, les CICR intervient dans la campagne de riposte contre la maladie à virus Ebola, elle a dit.
Oui, mais la maladie Ebola n'est pas la guerre, hein, mon cher. On a bien parlé lors. Mais moi, j'allais aussi demander, à mon avis, une autre question. Est-ce que, parce que j'entends primer les gens comme des musiciens, là, ambassadeurs, hein, qu'est-ce que ça a à voir dans tout ce que... Et puis, je voulais aussi savoir les rapports qui existent entre l'ONU. Est-ce que tout État qui fait partie de l'ONU fait d'office partie du comité où c'est facultatif, on peut être de l'ONU, et puis je voulais savoir si c'est un organisme spécial comme, et puis j'entends parler aussi des organismes humanitaires. Est-ce que ces termes-là existent sur le plan international, ou soit on parle de CICR qui est là pour les droits internationaux humanitaires? Parce que puis, lorsque nous parlons aussi des ingérences humanitaires, est-ce que vous pouvez me permettre...
Gaston, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Merci. Je voulais un peu ingérence humanitaire, et de toute façon, on se voit les États intervenir, tout disant l'ingérence humanitaire. Est-ce que peut nous expliquer ces termes-là, en droit international, ça va signifier quoi? Merci.
Merci beaucoup, monsieur Gaston Ganou. Je rappelle que vous nous avez appelé depuis la ville de Kinshasa, madame Mouchebouka. On peut commencer par Gaston Ganou qui va avoir une idée exacte sur l'implication du CICR dans les droits internationaux en RDC.
Merci, monsieur Gaston. Le CICR est vraiment impliqué dans le respect du droit international en République démocratique du Congo. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vais aller en amont d'abord, parce que dès demain, nous organisons le concours de plaidoirie. Nous prenons déjà à cœur la formation des décideurs à l'université. Vous voyez, nous soutenons l'enseignement du droit international humanitaire dans les universités congolaises. Et donc, à ce moment-là, nous veillons à ce que tous les étudiants...
Ça, c'est un plaidoyer qui est en cours ou ça a déjà été intégré dans les programmes nationaux?
Non, c'est déjà intégré. C'est déjà intégré. Ça fait un bon bout de temps que nous organisons des concours de plaidoyer. Nous sommes à la 5e édition.
D'accord.
Et vous notez qu'on organise le concours tous les 2 ans. Donc, ça fait au moins...
10 ans, parce que vous êtes à la 5e édition.
Oui, voilà, au moins 10 ans. Mais après, on a commencé plus tôt, évidemment. Voilà. Et puis, nous travaillons aussi avec les autorités nationales pour ce qui concerne justement la mise en œuvre, avec les parlementaires pour ce qui concerne les lois de mise en œuvre et avec l'exécutif, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour ce qui concerne justement la promotion des ratifications des conventions, selon évidemment les tâches telles qu'elles sont prévues dans la constitution de la RDC. Nous nous occupons également de la formation, nous soutenons évidemment la formation des militaires aux règles de droit international humanitaire.
Ah, c'est la question qu'a posé Kachaï depuis la ville de Kananga.
Oui, parce que ce sont les militaires qui font la guerre. Et donc, ils doivent connaître
les
règles
droits humanitaires internationaux.
Et nous soutenons justement la formation des militaires. Et il existe vraiment une très bonne collaboration avec les forces armées de la RDC dans ce domaine. Nous formons aussi la police au droit international des droits de l'homme. Parce que la police ne fait pas la guerre. Et comme les droits internationaux humanitaires ne s'appliquent qu'en cas de guerre, la police est formée au droit international des droits de l'homme. Parce que quand elle procède aux opérations de maintien de l'ordre, c'est le droit international des droits de l'homme qui s'applique. Et là aussi, nous intervenons. Nous intervenons dans les écoles à Kasangulu, à Kapalata et dans d'autres écoles de police. Voilà donc, le CICR est quand même impliqué dans le soutien. Parce que ce n'est pas le CICR qui respecte les droits internationaux humanitaires. Ce sont les États qui ont ratifié ces conventions, qui y ont adhéré, qui sont obligés de respecter et de faire respecter les droits internationaux humanitaires. C'est bien marqué dans l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève. Les États s'engagent à respecter et à faire respecter les droits internationaux humanitaires. Et le CICR vient en soutien aux États pour justement ces qui tiennent ces obligations-là.
Et Maître Gaston, nous voulons savoir si les membres des Nations Unies sont automatiquement affiliés au CICR. Et il dit, vous n'êtes pas vraiment là où il y a des conflits armés, le CICR n'est pas présent.
Nous sommes présents, malheureusement, il y a d'autres acteurs humanitaires qui sont là, mais...
Qui interviennent,
Qui interviennent, nous ne sommes pas le seul, voilà. Nous sommes présents sur les théâtres des conflits, voilà.
Ou post-conflits, après les conflits, vous allez vous accompagner la population civile sinistrée?
Oui, mais c'est parce qu'en fait, quand le conflit prend fin, ce n'est pas que les armes se taisent. Il y a toutes les conséquences des conflits armés.
Oui.
Les prisonniers.
C'est tout un processus.
Oui, les prisonniers, les regroupements.
Les conditions d'accueil, l'hébergement, les retours des enfants,
voilà,
la scolarité.
Les déplacés aussi, s'ils
rentrent. Santé.
Voilà. D'ailleurs, dans certaines contrées à l'Est, nous aidons avec des semences. Nous aidons avec des semences parce que ces gens-là rentrent chez eux, ils n'ont pas fait de champs, donc ils n'ont pas gardé de semences. Et nous leur donnons des semences et nous les accompagnons.
Ça, c'est dans l'alimentation, sécurité alimentaire.
Oui, nous avons des agronomes. Oui, donc nous sommes présents, mais bon, évidemment, nous ne fonctionnons pas de la même manière que peut-être les autres, où on va dire on a fait ceci ou cela, mais les bénéficiaires savent qu'on est là.
Donc,
voilà. Pour ce qui concerne l'ONU, l'ONU n'est pas membre du CIF. Ce sont des institutions tout à fait différentes. L'ONU, évidemment, on la connaît, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a été créée par les États au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945, en remplacement de la Société des Nations qui a existé avant elle. Mais le CICR a été créé par des citoyens suisses qui l'ont créé. Mais il a reçu mandat des États pour justement développer et promouvoir le droit international humanitaire. Et le CICR aujourd'hui a qualité de membre observateur au
Conseil des Nations.
Oui, aux Nations Unies. Mmh. Voilà. Alors, je l'ai entendu parler des musiciens qui sont ambassadeurs du CICR. Non, le musicien dont il parle, il est ambassadeur de la Croix-Rouge de la RDC. La Croix-Rouge de la RDC est membre du mouvement avec nous. Il y a le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce mouvement est composé de 3 branches. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, les sociétés nationales Croix-Rouge, Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà. Mmh. Alors, dans cette grande famille, nous collaborons parce que nous sommes de la même famille. Mais après, la Croix-Rouge de la RDC, qui est la société nationale, est auxiliaire de pouvoir public. Et donc, ils ont nommé cet ambassadeur pour les aider à vulgariser leurs actions. Mais ce n'est pas un ambassadeur du CICR, c'est un ambassadeur de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai entendu parler aussi de...
Il a posé beaucoup de questions, donc il voulait savoir, il dit que le CICR n'intervient que dans les agglomérations pour inhumer par exemple une personne qui est décédée, et puis vous n'êtes pas vraiment sur terrain là où il y a vraiment des problèmes réels.
Pour la gestion des catastrophes naturelles, évidemment, la CRDC, quand il voit des personnes portant des brassards ou des dossards avec la Croix-Rouge, parfois, pour l'inhumation, par exemple, des personnes qui sont mortes suite à la pluie, suite à des dégâts causés par la pluie, sûrement qu'il a vu des volontaires de la Croix-Rouge, de la RDC. Et ces volontaires sont nos partenaires, parce que je vous ai dit que nous sommes de la même famille. Et j'aimerais insister...
Mais c'est aussi un acte à ne pas négliger, c'est un acte loyal.
Oui, mais bien sûr, oui. Mais bien sûr, nous collaborons avec eux, nous collaborons, oui. Et j'aimerais...
Donc insister. Gaston n'a pas intérêt à minimiser cette action-là.
Non, il n'a pas intérêt à... Non, imaginez qu'aujourd'hui, qu'il y ait une catastrophe naturelle et qu'il y ait des morts. Il n'y a pas de conflit armé ici à Kinshasa. Qui va intervenir, c'est la Croix-Rouge de RDC qui va intervenir, mais en partenariat avec nous, parce que nous nous soutenons, nous sommes une même famille, nous nous soutenons. J'aimerais juste insister, quand ils voient cette Croix-Rouge-là, cette Croix-Rouge, nous disons toujours que c'est notre arme à nous, entre guillemets, qui nous protège. Quand vous voyez une personne qui a un dossard, un brassard avec la Croix-Rouge, ou alors Croix-Rouge et Croissant-Rouge, c'est la fédération, vous devez respecter ces emblèmes. Et l'État congolais est obligé, au terme des engagements qu'il a pris en ratifiant les conventions de Genève, il est obligé de prendre une loi justement réprimant tout abus des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et maintenant du Cristal-Rouge. Et cette loi est encore en attente auprès du Parlement, Assemblée ou Sénat. On ne sait pas à quel niveau, mais cette loi est en attente. On y a travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé et cette loi est en attente. Mais entre-temps, la population devrait savoir que les personnes ou les biens, véhicules, bâtiments, qui portent ces emblèmes-là, sur lesquels ces emblèmes sont marqués, ces bâtiments, ces personnes, ces biens, ces véhicules doivent être respectés en tout temps.
Quel est le niveau de la mise en œuvre du droit international humanitaire en RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, voici le numéro de contact pour nous appeler. 099-706-6394 et 081-890-6394. Appelez-nous, n'attendez pas de dernière minute. Hein. Appelez-nous, nous vous rappellerons pour intervenir en direct.
Magazine des Nations Unies. Magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, Rediffusion mercredi à 15h30.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien, au CAPI Service, qui s'intéresse aujourd'hui au niveau de la mise en œuvre du droit international humanitaire en RDC avec Madame Mouchebekwa. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Madame, sur les éléments qui guident l'action humanitaire du CICR en RDC?
Les éléments qui guident l'action humanitaire du CICR en RDC, c'est que nous identifions évidemment là où sont les priorités. Et après avoir identifié ces priorités, nous faisons évidemment des programmes pour le faire. Pour ce qui concerne la mise en œuvre du droit international humanitaire, nous travaillons principalement avec les autorités nationales, qu'elles soient de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, de l'exécutif, évidemment, nous faisons évidemment des ateliers. Nous sommes en train de suivre la mise en place de cette commission du droit international humanitaire qui est en train de voir le jour. En ce qui concerne les législateurs, nous avons parfois des ateliers avec les parlementaires. En ce qui concerne les pouvoirs judiciaires, nous avons aussi des ateliers de formation avec les magistrats. Nous l'avons fait à l'Est en avril 2017 et maintenant nous nous apprêtons à le faire ici à Kinshasa et nous sommes en permanence avec eux, justement pour rappeler les règles du droit international.
Mais est-ce que vous vulgarisez également ces notions auprès des communautés locales? La population également, elle est censée savoir tous ces principes.
Bien sûr, la population aussi devrait connaître le droit international humanitaire. C'est même ce qui est dit. Les États doivent faire connaître le droit international humanitaire à toute la population. Oui, nous le faisons également. Nous avons des spots radio, des spots, des images. Nous passons partout, même là où la radio n'arrive pas. Nos collègues de communication sont là et vont connaître le droit international humanitaire à toute la population et surtout aux communautés bénéficiaires justement de notre action.
Ouais. Il y a Deo Gracias qui est dans la ville de Kananga. Nous allons lui donner la parole et revenir à vous, madame. Bonjour, monsieur Deo Gracias. Monsieur Deo Gracias, vous êtes en ligne, vous nous écoutez? Malheureusement, allô, monsieur Deo Gracias.
Oui, allô, je vous écoute.
Quelles sont les questions que vous avez à poser à ce niveau du débat?
Oui, et avant tout, j'ai un peu de préalable par rapport à l'intervention de madame. Nous savons que la mise en œuvre, normalement, du droit international humanitaire en RDC pose des sérieux problèmes. Du fait que tous les éléments de force de l'ordre, il faut d'abord le recyclage par rapport à ces droits-là. Pourquoi? Parce que nous remarquons qu'il y a plusieurs infractions qui marchent à l'encontre avec l'article 4 de la Convention de Genève. L'utilisation de l'ordre supérieur comme cause de justifiabilité, comme dans les cas qui se sont déroulés à Saï. Nous avons vu seulement que non. Il y a eu le massacre, les tracasseries, et nous n'avons pas même vu une action de la Croix-Rouge pour soigner, donner soin aux malades, aux blessés de guerre. Donc, il n'y a pas cette structure-là normale de la Croix-Rouge, n'est pas opérationnelle normalement en RDC. C'est pour ça que nous voyons que normalement la RDC et toutes les institutions, les éléments des forces de l'ordre, et la Croix-Rouge de RDC, il faut toujours un recyclage permanent de tous ces agents-là afin que les droits internationaux humanitaires soient mis en œuvre normalement en RDC. Donc nous voyons précisément que la CICR intervient qu'en aval, après qu'il y ait des massacres, qu'il y ait des crimes, qu'il y ait des... En amont, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas une formation par rapport à ça. Donc nous voyons vraiment que non, toutes les questions là-dedans sont des études normalement.
Merci beaucoup, M. Deo Gracias. Donc, selon vous, le droit humanitaire international souffre d'applications ici chez nous en RDC. Donnons cette fois-ci la parole à M. Haïtien Diluka, qui est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Si j'ai bien suivi l'invité religieusement lorsqu'elle a dit que leur futur contribue à la formation de la police congolaise, et celle de l'armée congolaise. Mais si nous regardons si nous regardons l'application ou bien les agissements de la police quand on les en face de la population, nous mettons en cause leur contribution. C'est-à-dire, soit cette structure ne donne pas une bonne qualité d'information vis-à-vis de nos policiers pour le mettre en pratique, pour qu'elle soit bénéfique pour la population.
Merci beaucoup pour votre contribution, suggestion. Donnons cette fois-ci la parole à Yannick. Yannick, il est à Manono. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à madame l'invitée.
Quelle est la question ou quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité? Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
J'ai une seule question. Concernant le CCR, parce que j'ai vécu un cadre ici à Manono. Lorsque la guerre des Pygmées était venue ici à Manono et qu'elle avait pris fin, il y avait une aide qui venait de CCR. Maintenant, je voulais signaler que les plus bénéficiaires, c'était les agents de CCR. On distribuait ici à Manono des blanquettes, des assiettes, des cuillères et tout consort. Mais les bénéficiaires étaient seulement les agents de CCR.
Comment ça?
Parce que, on ne sait pas, parmi les 100% des déplacés, il y avait ces 34 ou 30% des déplacés qui avaient réussi l'aide de CCR. Maintenant, et les autres, le pourcentage qui restait était bénéficié par les agents de CCR. La question était maintenant de savoir, les nécessaires, ce qu'on prévoit pour que la guerre n'atteigne pas un village, soit le nécessaire, c'est qu'on entende d'abord la guerre entrer dans un village pour venir avec une aide. Voilà la question posée à madame l'invitée.
Merci beaucoup, monsieur Yannick. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Manono. Il y a également Fabrice Mastaki qui nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Il dit ceci: en réalité, au Congo, il n'y a pas respect de ses droits internationaux humanitaires car plusieurs catastrophes se déroulent et parfois les gouvernements n'interviennent pas. Exemple, vous avez les sinistrés de la catastrophe naturelle survenue le 25 octobre à Calais. Ils passent la nuit à l'extérieur pendant la période pluvieuse et c'est la souffrance jamais vue. La pluie pénètre jusqu'à l'intérieur de leurs habitations. Ils n'ont pas à manger, leurs bâches ont vieilli. C'est la misère totale et le gouvernement reste silencieux face à la souffrance de ces sinistrés. Madame Mouchebouko, il y a Yannick qui a donné son témoignage. Il a dit à Kalemi, lorsqu'il y avait les conflits entre toi et Bantou, les vivres qui étaient destinés aux sinistrés n'ont pas été bien distribués.
Vous savez, les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes.
Très énormes, oui.
Oui, les besoins sont énormes et le CICR à lui seul ne peut pas combler, ne peut pas satisfaire tous les besoins. C'est pour ça d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a parlé des organismes humanitaires. Il y a d'autres organismes humanitaires qui sont là et qui
interviennent,
qui participent aussi, voilà, à ce soutien-là. Donc, les besoins sont énormes. Et très souvent, vraiment, l'aide du CICR ne suffit pas à elle seule, non. Les besoins sont énormes. Je voudrais aussi dire, parce que j'avais entendu un
auditeur
dire que nous sommes l'ACR, nous sommes le CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Le ACR,
c'est le Haut Commissariat pour les réfugiés.
C'est une agence des Nations Unies. Mmh. Et les réfugiés, les déplacés n'ont pas les mêmes droits. Les réfugiés ont traversé les frontières nationales, et là où ils sont pris en charge par le HCR. Les déplacés, ils quittent juste leur lieu de résidence pour se déplacer sur un autre lieu, mais dans les limites du
territoire national.
Et là, il arrive que cela soit peut-être en famille ou dans des camps, ça dépend, mais ils bénéficient de l'aide humanitaire. Les réfugiés aussi, quand ils parlent, quand ils quittent leur pays et que, par exemple, ils se déplacent en masse suite à un conflit armé, le CICR peut leur apporter aussi de l'aide là où ils sont.
Il y a un auditeur derrière à Kananga qui voulait savoir les droits qui doivent s'appliquer en période de guerre, les Youssou Bello.
Les Youssou Bello, il a parlé de Youssou Bello et de Youssou Bello. Les Youssou Bello, c'est le droit international humanitaire en latin. C'est le droit dans la guerre.
Pendant la guerre.
Oui, même quand il y a la guerre, il y a quand même des règles que les belligérants doivent respecter.
Les principes à ne pas violer.
Voilà, il y a des règles qui sont là. Ces règles limitent les moyens et les méthodes que les belligérants vont utiliser pour se faire la guerre. Mais ces règles-là aussi protègent les populations qui ne participent pas comme vous et moi, ou qui ne participent plus, c'est-à-dire les militaires tombés ou blessés ou morts.
Ou les prisonniers de guerre.
Voilà. Ou alors les biens qui sont affectés ou susceptibles d'être affectés par le conflit armé. Alors que le jus ad bellum, c'est le droit de faire la guerre. Ça, ce droit-là est évidemment bien réglementé dans la Charte des Nations Unies qui interdit l'usage de la force dans les relations internationales, sauf pour les exceptions qui sont toujours contenues dans la Charte, c'est-à-dire en cas de légitime défense ou en cas de l'usage de la force sur résolution du Conseil de sécurité. Et même dans ce cas-là, où l'usage de la force est utilisé par le droit international, on respecte quand même le droit international humanitaire. Voilà.
On respecte quand même le droit international. Ce sont les principes qui méritent d'être vraiment vulgarisés sur terrain.
Mais alors, j'aimerais juste dire, la prévention des conflits n'est pas du ressort du droit international humanitaire. La prévention des conflits est du ressort du jus ad bellum. C'est l'ONU, c'est les institutions, les communautés régionales qui font de la prévention de conflits. Mais le droit international humanitaire ne fait pas de la prévention des conflits. On ne va pas aller chercher à savoir pourquoi les gens se battent. Ça, l'ONU saura, parce que c'est l'ONU qui est chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Voilà. Et pour le DIH et le CSR en l'occurrence, quand un conflit armé
surgit.
Et là, le droit international humanitaire s'applique. Et nous rappelons aux parties que là, maintenant, vous êtes en train de vous battre. N'oubliez pas qu'il y a des règles qui s'appliquent.
Revenons, madame, au concours que vous avez lancé. Nous sommes à la 5e édition de ces concours. Au fait, il poursuit quel objectif?
L'objectif du concours, en fait, c'est le soutien à l'enseignement du droit international humanitaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous soutenons les universités congolaises et d'autres à travers le monde, parce que nous avons beaucoup de concours que nous organisons. Je vais vous les citer si vous le permettez.
Allez-y rapidement.
Et donc, nous organisons un concours, évidemment, dans les délégations, où nous avons des bureaux. Là, nous organisons à Abidjan, c'est la délégation régional qui est en Côte d'Ivoire. Nous organisons aussi à Bamako, à Bruxelles, à Kinshasa aussi, à Dakar, à Bujumbura, à N'Djamena, à Niamey, à Ouagadougou, et Paris, Rabat, Tunis, à Yaoundé.
Madame, quels sont les candidats qui doivent participer à ces concours?
Les candidats qui doivent participer à ce concours, ce sont des étudiants qui ont déjà eu le cours de droit international humanitaire, justement. Donc, ces étudiants-là, du niveau de licence, qui ont déjà eu le cours de droit international humanitaire, y participent. Et pour ce qui concerne cette 5e édition de la RDC, nous avons les universités de Kinshasa, de Goma, de Bukavu, de Beni Butembo, de Lubumbashi, de Bunia, de Kananga, qui vont participer. Nous avons organisé des éliminatoires sous forme écrite autour d'un cas fictif que nous avons envoyé. Les étudiants y ont travaillé et de ces éliminatoires, nous avons pris une équipe par province pour participer à la finale ici à Kinshasa. Et cette finale aura lieu le 25 octobre. Oui. Le 25 octobre, mais le concours c'est du 23 au 25, le 25 octobre. Et pour la première fois, nous allons organiser ce concours au sein d'une université congolaise et pas dans une salle à l'extérieur, au sein d'une université pour justement sensibiliser tous les autres étudiants sur le droit international humanitaire et être proche justement des bénéficiaires de ce concours. Il sera organisé dans les locaux de l'Université protestante au Congo.
Je comprends que le concours a pour but de vulgariser les notions liées au droit humanitaire international. Est-ce qu'il y a des prix réservés aux élèves gagnants?
Oui, le gagnant de ce concours, de cette édition nationale, cette cinquième édition nationale, va représenter la RDC au concours régional francophone, qui s'organise aussi tous les deux ans, et le prochain concours régional francophone sera organisé à Yaoundé en 2019.
Merci beaucoup, madame, pour toutes ces précisions. Vous étiez avec nous hein, dans Okapi Service. La matière, elle est tellement abondante, on ne sait pas aborder tous les aspects en un seul numéro. J'espère que ce n'est qu'une partie remise. Hein. On aura le temps de vous inviter pour en parler davantage. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Merci aux intervenants.